genou dans la chaussure. Bonjour, au sommaire de ce nouveau numéro, nous vous proposons en dernière partie d'émission des sorties autour des livres avec passion d'image et notamment avec la venue de Květa Pakovská les 15 et 16 mai à la bibliothèque L'Alcazar proposée par l'association Sur la Place. Un spectacle, c'est pas pareil. Un spectacle en papier découpé pour aborder un sujet au cœur de la construction identitaire, l'approche de la différence. Au cœur de l'émission, le petit cinéma de Photokino, fidèle au rendez-vous. Nous explorerons en avant-première l'univers sonore du Géant de Fer avec Nathalie Guimard, bonjour.
Bonjour Marie-Dominique, et oui, nous irons à l'ère, moment de l'ère atomique, un peu à l'époque de Spoutnik, rencontré aux États-Unis un drôle de géant, un très grand géant, vraiment grand, adapté d'un roman de Ted Hughes, je vous en parlerai plus tard.
Nous évoquerons des livres CD du label Enfance et Musique, et tout de suite, approchons l'audace de Sophie Giraud, directrice éditoriale d'Helium, une toute jeune maison d'édition d'albums jeunesse, des albums stimulant l'imaginaire des enfants comme on les aime, nous, les parents.
Écoute bien, la grande histoire des saisons va commencer. Regarde, petit frère, les hirondelles sont de retour. Le printemps est arrivé et ce soir, les animaux vont le célébrer.
Ils préparent une fête pour de vrai ?
C'est ce que le lapin m'a dit. Elle aura lieu dans la prairie. Chacun doit apporter quelque chose. Les hirondelles ont préparé un pâté de moucheron à la dernière minute. Le hérisson a cuisiné un clafoutis d'escargot et le merle un flan aux araignées. Le blaireau est très fier de son ragoût de vers de terre aux champignons, mais le pivert et le coucou essayent déjà d'y goûter. Les moutons, qui cherchaient des trèfles à quatre feuilles, se sont disputés toute la journée. L'écureuil a promis de passer prendre la taupe pour ne pas qu'elle arrive en retard. Le lapin a ciré ses plus belles chaussures, car tout le monde doit être très beau. Écoute, les cloches des moutons se font entendre. Ça veut dire que la fête peut commencer.
J'aimerais tant aller à la fête, moi aussi.
Alors, c'était un extrait du livre CD intitulé « Ma grande sœur m'a dit » qui vient de paraître aux éditions Helium. Le texte de Gilberte Niam-Bourget, les illustrations de Julia Wauters et les compositions originales de Laurent Savagnac. Alors, on a évoqué ce livre CD pour introduire Sophie Giraud avec nous en ligne. Sophie Giraud qui est éditrice et qui vient de créer donc une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Helium. Sophie Giraud, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans ce contexte économique actuel, on aurait pu imaginer que le milieu de l'édition jeunesse resterait sur ses gardes, mais il n'en est rien. Je crois qu'on a affaire à des éditeurs ou des éditrices audacieux dont vous faites partie, je suppose. Donc, c'est une toute nouvelle maison d'édition, mais vous êtes expérimentée, Sophie Giraud. Je crois que vous avez travaillé aux éditions Albin Michel et aux éditions Naïve. Et est-ce que vous pouvez nous évoquer votre parcours, ce qui vous anime, ce qui vous agite et pourquoi, ce qui vous pousse dans le milieu de l'édition jeunesse.
Ce que j'aime beaucoup dans l'édition jeunesse, c'est que c'est un endroit où le livre se travaille sous plein d'aspects différents. C'est-à-dire que c'est à la fois le texte, l'illustration, l'objet livre, tout un tas d'éléments qui concourent à créer la matérialité du livre. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup. Je pense que c'est l'endroit peut-être le plus créatif dans ce domaine. Le livre d'art aussi essaye de créer cet équilibre entre les différents métiers du livre. Oui, moi je viens effectivement d'Albin Michel au tout début. Avant ça, j'étais dans une toute petite maison qui s'appelait Mila Éditions. Et avant ça encore, je faisais des lectures pour Flammarion, mais plutôt dans le domaine adulte. Et ensuite, j'ai créé le catalogue Naïve Livre, qui faisait autant de la jeunesse que de l'adulte. Et puis là, j'ai décidé de, de prendre les choses en main, de créer ma propre maison d'édition qui est diffusée par Flammarion.
Et qu'est-ce qui vous donne la force de créer une maison d'édition, comme je l'évoquais, dans un contexte économique peut-être fragile, incertain? Qu'est-ce qui donne cette force-là et cette conviction peut-être?
Je crois qu'on est une petite équipe. Je crois que c'est ça qui fait qu'on peut créer une maison d'édition, c'est qu'on est une équipe à la fois, on n'est pas un grand nombre, mais on a tous des compétences qui s'ajoutent, hein, qui permettent de traiter tous les aspects du livre. Donc, on est à la fois une équipe éditoriale avec Gilbert Bourget, avec moi, et puis avec quelques éditeurs freelance qui vont venir faire des choses pour nous, comme Maïlys de Kerangal, qui est aussi auteur chez Vertical.
Exact.
Et puis on est aussi on est adossé à un studio graphique, et en fait Gérard Le Monaco et Emma Giuliani, qui sont à l'origine de beaucoup de très beaux livres dans l'édition en général, sont partenaires d'Helium. Donc on a les aspects éditoriaux, les aspects fabrication, les aspects graphiques qui s'ajoutent. Et puis ce qui porte beaucoup, évidemment, c'est les auteurs, puisque on a une grande fille. Enfin, depuis que je suis chez Albin Michel, j'ai travaillé un certain nombre d'auteurs. J'en ai évidemment ajouté d'autres au fur et à mesure des années, mais il y a une grande fidélité des auteurs, donc je resterai l'éditrice de Jean-Luc Fromental et Joël Jolivet, qui c'est un super beau livre, c'est les 365 pingouins qui viennent d'en faire un chez nous qui s'appelle Oups.
On va en parler.
Il y a aussi des auteurs comme François Bégodeau qui avait publié pour nous chez Naïve Livre en adulte, et qui va faire un premier livre pour la jeunesse, qui sortira en septembre prochain.
Oui, donc en fait, ce qui donne de la force, c'est une histoire de complicité d'une équipe technique dans les coulisses pour la fabrication des livres, pour les choix éditoriaux, les choix du papier, les choix des formes et des auteurs, bien entendu.
Oui, c'est-à-dire qu'on lit un peu tout, c'est-à-dire que moi je travaille beaucoup aussi avec les mêmes éditeurs étrangers, on lit absolument tous les aspects du livre ensemble, on a une vraie conviction de ce qu'on veut faire, donc effectivement ça apporte beaucoup de force. Et puis ça apporte beaucoup de joie de faire les livres, en fait. Et je crois que ça, c'est essentiel.
Alors, cette joie de faire les livres, cette force, ces convictions, ça s'appuie, donc du coup, ça donne une couleur à la maison d'édition, avec une ligne éditoriale, vous dites, éclectique, pour éditer avec sérieux des livres fantaisistes.
C'est exactement ça, en fait. C'est la fantaisie.
J'ai repris vos propos, hein.
Oui, on prend ça très au sérieux. C'est-à-dire que pour nous, ce qu'il faut, c'est que les livres aient une vitalité qui corresponde à une certaine énergie qu'on a envie de donner tout autant aux enfants qu'aux adultes, puisqu'on va faire... cette année, on fait majoritairement du livre jeunesse, mais on va aussi produire à peu près un quart de notre production à partir de l'année prochaine sera destinée aux adultes. Donc, on a vraiment l'envie de donner une énergie, une vitalité. Alors, vous parliez de la crise tout à l'heure, c'est exactement ça, le remède contre la crise. C'est offrir aux gens des moments de plaisir à partager avec leurs enfants, à partager avec eux-mêmes. Et dans ce rapport très à la fois intime, sensuel au livre, c'est-à-dire vraiment le livre comme objet qu'on a chez soi, qui vous apporte du bien. Et d'ailleurs, pour l'instant, si on parle de crise, la librairie n'est pas encore énormément touchée, elle n'est pas autant touchée que d'autres domaines. Il y a peut-être encore l'idée que le livre est un plaisir très simple et auquel on peut avoir accès assez facilement et chez soi et tranquille, voilà.
Donc cette posture, ces choix, sur ce que représente le livre, la place du livre dans le quotidien, ce sont des objets, me semble-t-il, dynamiques, très graphiques, et surtout des livres animés qui encouragent la lecture, qui encouragent le lecteur à agir sur l'histoire, à entrer à l'intérieur, à être témoin de l'histoire et acteur de sa lecture. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, ce qui est ressorti des premières lectures dans des trois livres qu'on peut voir donc sur les tables des libraires depuis le mois d'avril 2009. Donc ma grande sœur m'a dit, qu'on a évoqué en introduction, qui traite des saisons en musique. Donc là, c'est un livre CD. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, c'est un livre qui s'inscrit un peu dans une tradition du livre CD, un peu comme les livres CD qu'on avait quand on était petit, c'est-à-dire qu'il y a le lapin qui joue du tambour quand il faut tourner la page, mm-hmm. Il y a une ambiance graphique qui évoque un peu les années 60. J'aime beaucoup votre idée de rendre le lecteur actif, c'est-à-dire que quel que soit là, c'est vrai qu'il y a un rapport un peu dynamique comme ça, des lectures avec des étages différents dans les livres que j'aimerais pouvoir publier. Là, en l'occurrence, il y a cette lecture qui est animée par le disque. Oui. Le disque, il n'est pas du tout... le disque n'est pas du tout un objet redondant par rapport au livre.
Oui, tout à fait. Le texte, les mots, les chansons dans le CD ne collent pas au texte du livre. Il est beaucoup plus riche.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on entend sur le CD permet de décrypter l'image. Donc pour l'enfant, ça va être de trouver des choses qui ne sont pas lues par éventuellement le parent qui est à côté de lui ou par lui-même. Donc il va aller chercher des choses dans l'image. Donc déjà, il est en position effectivement un peu active. Et ensuite, donc ça, c'est le moment où sa grande sœur lui raconte une histoire qui est complètement farfelue sur les animaux dans chaque saison. Enfin, à chaque saison, les animaux, selon sa grande sœur, créent des fêtes, en fait. Et ensuite, il va écouter, parce que le CD reproduit des vrais sons d'animaux, les sons d'animaux ou les sons de la nature de chaque saison. Donc il entendra le lapin qui clapille, la baleine, etc. Et on s'est amusé à comme ça retrouver pour chaque animal le mot dans le vocabulaire français qui représentait le son.
Et ça, c'est un imagier sonore, donc qui ponctue les pages au fur et à mesure, qui invite à tendre l'oreille en alternance avec le regard, invité à fouiller les images.
Oui. Puis il y a aussi cette idée de la musique, parce que on a fait appel, et là ça a été grâce à la mairie de Nanterre qui nous a commandé une partie des ouvrages pour les offrir aux enfants de Nanterre. On a réussi avec cette précommande, si vous voulez, qui a aidé à financer ce projet, on a réussi à commander une vraie musique originale, un très bon compositeur qui a étudié la musique de film aux États-Unis,
Laurent Sauvagnac.
Sauvagnac. Et pour chaque musique, pour chaque saison, il a inventé une couleur particulière dans sa musique, ce qui correspondait aussi au travail de Julia Vauter sur l'image, c'est-à-dire que pour chaque saison, il y a une couleur donnée par l'illustration.
Un très beau livre dont je peux vous rapporter déjà un premier témoignage d'une amie qui l'a acheté en tout début de semaine. Ça fonctionne très très bien avec les enfants.
Un élément.
Tout à fait. Un livre sur lequel qui invite au rêve, à l'imagination dans lequel on a envie de plonger et d'y revenir. Voilà, on continue avec La Petite Bête qui monte, donc Delphine Chedru, donc qui fait partie de ces auteurs fidèles avec qui vous avez déjà travaillé aux éditions Naïves. Oui. Et donc le titre La Petite Bête qui monte fait partie de ces trois ouvrages édités dans cette maison d'édition toute jeune, Helium, que vous dirigez Sophie Giraud. Alors La Petite Bête qui monte, là c'est un livre très graphique, tout en hauteur, et là c'est pareil, il faut chercher la petite bête.
En fait, ce qu'on disait tout à l'heure sur cette espèce de plaisir partagé, c'est que pour moi c'est très important que tout le monde y ait son compte dans ces livres-là, c'est-à-dire que l'adulte peut y voir des choses et l'enfant peut y voir des choses. Le fait d'être actif, ça permet une lecture ludique Et là, en l'occurrence, il s'agit pour des petits-enfants d'aller chercher dans des motifs effectivement très graphiques ou derrière des rabats ou derrière des trous dans les pages, des surprises et des petites bêtes.
Mais des petites bêtes qui sont aussi aux prises avec des émotions. Parce que par exemple, le petit ver de terre, il a les yeux plus gros que le ventre. Il y a la chouette encore endormie. Je sais plus, j'ai pas le texte sous les yeux. Voilà. Donc c'est pas uniquement chercher pour chercher. Il y a aussi, c'est pas que l'image, mais chaque image est aussi, interpelle une émotion.
Oui, et puis ça permet aussi de faire lire l'image, c'est-à-dire quand on dit les loups endormis, on va essayer de trouver des yeux un peu fatigués avec des paupières lourdes, et c'est bien ce qu'a voulu dessiner, enfin en tout cas cacher Delphine dans son motif.
Donc ça, c'est un livre-jeu avec un très très joli graphisme proposé par Delphine Chedru. Le troisième livre, alors on n'a pas évoqué encore, mais ces livres-là sont plutôt de grand format. On en a plein les yeux, plein les oreilles et plein les mains. Alors Oups, un texte donc de Jean-Luc Fromental, des illustrations de Joël Jolivet. Alors là on est à Paris, c'est une série de catastrophes, alors là c'est le plus dynamique livre que j'ai vu récemment, avec deux histoires parallèles.
Absolument, donc il y a dans ce livre, c'est une formidable entreprise de ces deux auteurs qui ont vraiment choisi de créer un livre très original et particulier, où effectivement il y a une famille qui essaie désespérément d'aller prendre son avion et de traverser la ville, en l'occurrence un Paris très moderne, et de transport en transport, puisque chaque transport est interrompu par une catastrophe en fait, de transport en transport, ils s'avancent vers l'aéroport. Et toutes ces catastrophes sont causées à l'origine par un savon. Ils avaient confié leur appartement à la tante Roberta, qui était censée veiller sur les hamsters. Et en fait, la tante Roberta, très myope, en prenant sa douche, au moment même où eux s'engouffrent dans un taxi, laisse glisser, oups, un savon par la fenêtre. Et c'est ce savon qui crée toutes ces catastrophes. Donc il y a à la fois la lecture, effectivement, de cette histoire racontée par le petit enfant. On a tous en souvenir cette peur de rater l'avion, cette peur de ne pas réussir à partir en vacances, au moment où tout le monde s'énerve dans la famille, où il faut prendre les sacs, etc. Et puis, en même temps, cette catastrophe qui est racontée par le dessin, et ensuite que l'on peut décrypter grâce à un grand rabat. Donc on a plein de lectures différentes. On a aussi la lecture pour suivre des ours qui se sont échappés du jardin des plantes et qu'on va retrouver, deux grands ours oranges, et qu'on va retrouver dans toutes les pages. Donc c'est un livre extrêmement gai, c'est un livre qu'on lit plusieurs fois. Donc c'était aussi un peu ce qui, moi, m'a plu dans ce projet-là. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des livres... Enfin, ce livre-là est un grand format. On ne sera pas spécialisé dans les grands formats, puisqu'au mois de mai, on fait au contraire paraître un tout petit livre qui s'appelle Mini Maxi. Mais il se trouve que là, dans ce grand format, et ben, dans ce grand livre, on a beaucoup de choses à y voir, on a beaucoup de choses à y chercher. Donc c'est un livre à plusieurs lectures, à plusieurs jeux, en fait. Et c'est un peu, effectivement, comme ma grande sœur m'a dit, on a beaucoup de choses à chercher, à voir, et on ne se lasse pas de ce livre-là. Et je pense que pour un enfant, décrypter l'image, moi j'en ai un souvenir très 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 précis, décrypter l'image et s'inventer les histoires de l'image en plus de celles qu'on vous raconte est une vraie réalité de l'imaginaire de l'enfant.
Oui, effectivement, le texte s'entête vers un seul but, les images montrent un monde qui fourmille, les deux mondes semblent parallèles et en fait ça s'articule, c'est en lien et c'est vrai que ça fonctionne très bien, il faut y revenir, on a envie de continuer, mais voilà, on fait des allers-retours comme ça, des zigzags dans les images et dans le texte. gestes, c'est une sorte de gymnastique du regard. Et voilà, c'est un livre très, très dynamique. Alors, vous l'avez déjà introduit pour terminer ce moment. Un prochain livre, Mini Maxi, le livre des contraires de Didier Corny. Donc là, ça fait partie des parutions en mai. Et des boîtes-jeux, l'oiseau patate et les méli-mélos, donc l'oiseau patate de Delphine Chedru, et les méli-mélos de Serge Bloch. Mmh. Donc là, on élargit l'univers du livre.
Oui, exactement. On publie des livres ludiques, comme on vient de le dire, qui finalement accompagnent le lecteur jusqu'au jeu. Et dans l'autre sens, ce sont des jeux qui accompagnent l'enfant jusqu'à la lecture, enfin qui vont le mener à la lecture à notre sens. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui sont créés par des auteurs. Dans les deux cas, ce sont des jeux qui créent des personnages. Alors l'un, les Méli-Mélos de Serge Bloch, c'est un cadavre exquis avec des petites cartes découpées. On réussit à reproduire, on peut produire un nombre incalculable de combinaisons. Et ces combinaisons créent des personnages et ils ont chacun des noms absurdes, rigolos. Et à chaque fois, on ne s'en lasse pas parce qu'on peut créer à l'infini comme ça des personnages imaginaires en plus de ceux qu'a inventé Serge Bloch. Donc là, c'est déjà le début d'une histoire, en fait. Une fois qu'on a créé un personnage, qu'on lui a donné un nom, qu'on lui met en face un autre personnage auquel on a aussi créé un nom, on peut créer un dialogue, on peut créer une aventure, on peut imaginer des tas de choses. Dans l'autre boîte, l'oiseau patate, c'est la même idée, en fait, mais qui fonctionne là avec des stickers. Il s'agit de créer, comme les Monsieur Patate américains, il s'agit de créer des personnages oiseaux avec des stickers en forme d'yeux, de bec, d'ailes, de pattes. Voilà, et avec tout ça, on crée des personnages. On peut leur créer des fausses fiches ornithologiques. On peut s'amuser à vraiment inventer à chaque fois un oiseau qui aura une tête différente, une histoire différente, et pourquoi pas un nom de patate comme ceux que Delphine a inventé.
Bien, puis alors les prochains rendez-vous à la rentrée littéraire, donc en septembre, des livres objets adultes. Alors j'avais identifié, moi, François Bégodeau et Maëlys de Kerangal comme des auteurs, des romanciers aux éditions verticales, qui effectivement ont pour point commun de s'attarder sur une période de l'enfance qui est plutôt, quand on est plus grand, c'est entre deux, le passage entre l'enfance et l'âge adulte, c'est l'adolescence. Est-ce que les livres objets adultes et estampillés adultes que vous envisagez d'éditer avec François Bégodeau et Maëlys de Kerangal ont aussi ce lien avec l'adolescence?
C'est en fait le livre que François a écrit pour nous. C'est un livre vraiment pour les pré-ados. Et c'est l'histoire de l'invention du football, mais on peut le lire en tant qu'adulte avec autant de plaisir. Ça qui est génial, c'est que c'est vraiment un très bon texte qui est écrit avec beaucoup de fantaisie, d'humour et en même temps une grande rigueur littéraire. Et ça apporte aussi, nous, on aimerait comme ça varier les plaisirs que l'édition jeunesse accueille des auteurs différents venant d'univers différents. On parlait de Mini Maxi tout à l'heure, qui est un petit livre qui a été inventé par un designer qui n'a jamais fait de livre jusque-là, Didier Corny. Donc apporter comme ça des auteurs qui ne sont pas spécifiquement liés au monde de la jeunesse au départ. Jean-Luc Fromental qui écrit pour la jeunesse depuis longtemps, mais lui vient de Métal Hurlant, donc c'est pas du tout quelqu'un qui écrit uniquement pour les enfants. Voilà, donc là en l'occurrence effectivement François Bégodeau a écrit ce texte sur l'invention du foot qu'on retrouvera à la rentrée. Pour ce qui est de Maëlys de Kerangal et Joyce Ormand, en fait elle dirige un ouvrage qui s'appellera Femmes et Sport et qui est vraiment pour adultes là en l'occurrence et qui traite de toutes les images que l'on a en tête sur les femmes dans le sport, images qui conduisent finalement à une lecture de la femme aujourd'hui, de son rapport à la compétition, à la performance, de la stratégie, du corps féminin, enfin de tas de choses qui sont en fait, la maternité aussi pourquoi pas, en fait des tas de questions qui parlent de la femme en général. Ce sera un livre un peu littéraire et en même temps illustré qui, je crois, sera tout à fait passionnant. Voilà.
Bien, ben Sophie Giraud, merci beaucoup. Pour terminer cette stimulante rencontre, voici un extrait instrumental pour rêver, extrait de du livre CD « Ma grande sœur m'a dit » aux éditions Helium. Sophie Giraud, je vous remercie beaucoup. Très bonne continuation et merci. Au plaisir.
Merci à Radio Grenouille de s'intéresser à nous. Voilà.
Au revoir. Dans la continuité des livres-objets, des livres CD, je vous propose de vous rapprocher d'un label qui s'appelle Enfance et Musique et qui propose des livres CD depuis peu, notamment une collection, un livre, un CD, une collection co-dirigée par Cathy Coupry et Antonin Louchard, tous deux venus du monde du livre. Alors Enfance et Musique, c'est le fruit d'une longue expérience depuis 25 ans, d'une équipe de musiciens et de passionnés de musique qui s'appuie sur des démarches pédagogiques actives, le but étant de promouvoir les pratiques artistiques vivantes auprès des enfants en bas âge. Voilà, alors pour j'avais envie de leur faire un petit clin d'œil, et puis surtout ben avec des extraits alors de ce livre CD très drôle qui s'appelle Virelang, et voilà, on en écoute quelques extraits.
En Sicile, Cécile a les cils plus lisses que les lys d'Alice. En Sicile, Cécile a les cils plus lisses que les lys d'Alice. En Sicile, Cécile a les cils plus lisses que les lys d'Alice.
En Sicile, Élise a les hélices plus lisses que Alice en Sicile.
Iris ri, silibis glis,
iris ri, silibis
glis, iris ri, silibis
glis, iris ri, silibis glis,
iris ri, silibis
glis, iris ri, silibis glis,
iris ri, silibis
glis, iris ri, silibis glis,
iris ri, silibis glis.
Petite truite cuite, petite cuite truite.
Petite truite crue, petite truite cuite.
Petite cuite truite, petite cuite truite.
Petite truite cuite, petite truite crue.
Petite truite cuite, petite truite crue.
Cuit, cru, cru, cuit.
La pipi pense en pipé, le pompon pipon papon papote.
La pipi pense en pipé, le pompon peut papote.
La pompe pampipipe, la pompe papipapote.
Petit pot de beurre, quand te des petits pots de beurre auras-tu?
Je me des petits pots de beurre aurai quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurre auront.
Ma maman ment, mais mémé m'aime.
Pépé pépe, mémé m'aime.
Ma maman ment, mais mémé m'aime.
Pépé pépe. Mémé m'aime.
Ma maman ment, mais mémé m'aime.
Pépé pépe, mémé m'aime.
Ma maman ment, mais mémé m'aime.
Pépé pépe, mémé m'aime.
S'écrie, qu'as-tu pris dans mon nid? C'est pas moi, c'est le vent qui a volé tes enfants. Mais t'as vu que c'est la vie qui a vidé le dîner. Ces petits ont grandi, sans pitié sont partis. Et la pie, dépitée, nous épie sans répit.
Nathalie, tu avais envie de t'essayer?
Oui, mais là, je ferai jamais aussi bien qu'eux. Mais c'est vraiment très drôle, alors j'ai envie, oui. On va essayer, tu sais, les si, là. Si, 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 si près. Si, sans si, 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 sans si, si près. Et si c'est si sans su, son sein, sans su, c'est son sang. C'est si sans su, sans son succès.
Bravo.
J'ai fait quelques fautes, mais on l'a pas remarqué.
Pas du tout. Nathalie Guimard, donc, qui prend le relais pour la rubrique Le Petit Cinéma de Photokino avec le géant de fer, un robot géant venu d'une planète inconnue.
Et oui, très mystérieux cette histoire. On va aller voir de plus près.
Cinéma.
Le petit cinéma du 6 mai prochain vous fera voyager dans le temps et dans l'espace. En octobre 1957, alors que le tout premier satellite Sputnik 1 émet ses fameux bip-bip intergalactiques, nous allons donc découvrir un drôle de géant de fer. C'est aux États-Unis que se déroule notre histoire, à l'époque du Sputnik et de l'ère atomique, un peu avant la conquête de l'espace. À Rockwell, un petit village du Maine, un pêcheur dit avoir vu, durant une terrible tempête, un géant de fer débarquer sur la Terre.
Allô, vous êtes chez Hogarth Hughes qui est à l'appareil ?
Seul Hogarth Hughes, un jeune garçon de 10 ans, veut bien y croire à cette histoire. Parce que Hogarth est épris de merveilleux et passionné de science-fiction et de super-héros. Et sa curiosité sera très vite récompensée. Un soir, tandis que sa mère Annie travaille à la cafétéria, Hogarth regarde seul un film d'horreur à la télévision lorsque soudain l'image se brouille. Une fois qu'il a escaladé sur le toit, l'enfant constate que l'antenne a été tout simplement dévorée. Alors, rassemblant tout son courage et son attirail, il se lance sur les traces de la mystérieuse créature au cœur de la forêt.
Jamais une chose pareille, Hogarth. J'ai eu tellement peur. J'ai cru que je t'avais perdue.
Maman, c'est incroyable ce qui est arrivé. Il y a une chose énorme qui a mangé notre antenne de télé.
Oh, Hogarth.
Ah non, non, c'est vrai, je suis sérieux. Oh, mais pas un Sputnik comme Monsieur Stats croyait.
Hogarth.
Non, c'est un grand robot. Non, je t'assure.
Hogarth,
et mais le robot, il fait au moins 30 mètres de haut.
Hogarth.
Et il mange du métal.
Ça suffit. Ça suffit. Arrête. Je ne suis pas... Je ne suis pas d'humeur. Viens, rentrons à la maison.
Sa curiosité et son goût de l'aventure sont plus forts que sa peur. Et c'est ainsi qu'Hogarth devient ami avec cet étrange robot, géant, et qu'il décide de le protéger et de le nourrir. De métal, bien sûr. Heureusement qu'Hogarth a trouvé un complice, un ferrailleur, artiste, qui camoufle le géant quelque temps seulement.
Durer éternellement, Hogarth. Il faudra bien qu'on en parle à quelqu'un.
Ah, tu réfléchis beaucoup trop.
Et pourtant, son secret ne tardera pas à être percé. Le gouvernement, croyant à une attaque ennemie extraterrestre, dépêche sur place un agent de renseignement, Kent Mansley, chargé de faire passer l'enfant aux aveux.
Ah, oui.
Allô, Hogarth Hughes, j'écoute, qui est à l'appareil?
J'ai dit qu'il pouvait passer la nuit, petit, c'est le matin maintenant.
Écoute, je vais faire tout ce que je peux pour venir, mais il y a un type très bizarre ici qui surveille tout ce que je fais.
Mais qu'est-ce que tu me racontes encore? Il y a cet énorme géant gigantesque qui est devant chez moi.
Je peux pas te parler pour le moment, d'accord? Au revoir.
Qui c'était, mon garçon? Un ami à toi?
Oui, c'est un nouveau.
Ah, oh, mais... Arrête! Pas ça! Arrête!
Ça ne t'ennuie pas que je te pose quelques questions, mon bonhomme? Tu veux bien me dire pourquoi tu as parlé à ta mère d'un robot géant, Junior? Qu'est-ce que tu as vu à la centrale électrique, Terreur? À qui d'autre tu en as parlé, mon grand? Il fait quelle taille, ce truc, mon gaillard? T'es allé en forêt hier, chef! Où vas-tu comme ça? Champion! Junior? Cowboy! Hé, où tu vas comme ça?
Je vais prendre l'air!
Oh, tu devrais emmener Monsieur Mensley avec toi? Lui montrer les environs?
Oh, maman, y a rien à voir!
Oui, j'en serais ravi. Ça nous permettra de faire connaissance. On a plein de choses à se raconter, hein, champion?
Il y a deux sortes de métaux dans cette casse. La ferraille et les œuvres d'art. Si tu dois manger quelque chose, mange la ferraille. Ce qui se trouve à cet instant dans ta bouche, c'est de l'art! Ah, oh, laisse tomber, laisse tomber! T'es foutu! C'est pas mal.
Le géant de fer est un film d'animation américain, réalisé en 1999 par Brad Bird, l'auteur d'autres films sans doute beaucoup plus connus des plus jeunes, comme Ratatouille ou Les Indestructibles. Bien avant ces très grands succès du film d'animation américain, Philip Bradley Bird a tout d'abord réalisé son premier film d'animation à l'âge de 11 ans. Alors, son talent est très vite remarqué par les studios de films d'animation américains, où il travaillera d'ailleurs comme animateur pour la Walt Disney Company, les studios Fox, la série des Simpsons, pour les studios Pixar et la Warner Bros., chez qui il réalisera Le Géant de Fer. Une histoire adaptée du livre « The Iron Man » de l'écrivain et poète anglais Ted Hughes, écrit en 1968 pour ses enfants. « The Iron Man », c'est une allégorie de la guerre, écrite par Ted Hughes, qui n'est pas sans évoquer « La guerre des mondes » de l'anglais H.G. Wells, écrit en 1898, qui nous racontait alors l'invasion de la Terre par des extraterrestres venus de Mars. Cet ouvrage, parmi l'un des tout premiers de science-fiction, est devenu un classique. Et, on ne le sait jamais, il a été adapté à la radio dans les années 40, en 1938 exactement, aux États-Unis par Orson Welles. Vous savez, le grand réalisateur de cinéma. Et à l'époque d'Halloween, cette série passait à la radio, donc c'était juste le texte d'H.G. Wells raconté par Orson Welles, avec ambiance sonore, et malgré les avertissements très clairs au début et à la fin de l'émission, de nombreux auditeurs se sont laissés berner et ont vraiment cru que la Terre et Mars étaient en guerre et que les Terriens perdaient en quelques heures.
You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theater on the air. In an original dramatization of The War of the Worlds by H.G. Wells. The performance will continue after a brief intermission. This is the Columbia Broadcasting System.
Mais revenons au fil de notre film. Notre géant de fer extraordinaire découvre avec le jeune Hogarth le monde des humains, la beauté de la nature. Et ce robot découvre qu'il peut penser, qu'il peut aimer. Il découvre qu'il a lui aussi des sentiments. Alors bien sûr, le film évoque « Le roi et l'oiseau » de Paul Grimaud et Jacques Prévert, et puis aussi certains films de Miyazaki. On y parle de guerre, de paix, on y parle de vie et de mort.
C'est vraiment magnifique, hein. Hé, regarde! C'est un cerf. Eh ben, je crois qu'il a dû se dire.
C'est le monstre!
Oh non.
Mmh.
comprends pas ça. Ils l'ont tué avec ce fusil. Oui, les fusils, ça tue.
Fusils tue.
Je sais que tu te sens coupable pour le cerf, mais c'était pas de ta faute. Les animaux meurent, ça fait partie de la vie. C'est mal de tuer, mais c'est pas mal de mourir.
Toi, mourir ?
Ben, oui, un jour.
Moi, mourir ?
J'en sais rien. Tu es en métal, mais tu éprouves des sentiments. Et tu réfléchis sur les choses. Ça veut dire que tu as une âme.
Pour je ne sais quelle raison, l'armée stationne dans notre jardin, monsieur Mensley.
L'agent Mensley va faire intervenir l'armée, qui déploiera chars et canons. Et le géant menacé retrouve un instant ses instincts de combat, ce pour quoi il a été construit initialement. Et très vite, il pulvérise littéralement toutes les armées qu'on lui oppose.
Cette chose, nous avons employé toutes nos armes.
Pas toutes, mon général. La bombe.
La bombe. Vous savez, cette espèce de champignon assez fascinant qui a fait peur à toute l'humanité. Et oui, l'univers s'assombrit. Hogarth pourra-t-il éviter la catastrophe ?
Ici, votre général. Préparez-vous à l'attaque. Faites évacuer la ville et repliez-vous.
Non ! Non ! Ne faites pas ça ! Mon fils est là !
Tuer. Les armes tuent. Et tu n'es pas obligé d'être une arme. Tu es celui que tu choisis de devenir. C'est toi qui choisis. Choisis.
Que choisira le géant de fer? Vous le saurez si vous allez au petit cinéma le 6 mai, aux variétés. C'est à 10h, comme chaque premier mercredi du mois. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas venir le mercredi matin, rediffusion du film le week-end qui suit, le samedi après-midi et le dimanche matin. Pour cela, il faut se renseigner auprès du variété pour reconnaître les horaires précis. Voilà, le petit cinéma est terminé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec une autre guerre, le 3 juin au petit cinéma. La guerre des boutons d'Yves Robert, film de 1962. À bientôt.
Merci Nathalie. Alors on se retrouve dans la troisième partie d'émission à propos de sorties, de rencontres. Je vous propose un spectacle créé par la compagnie clandestine qui réside dans la région et qui a créé un spectacle que je trouve insolite, un spectacle à partir de papier découpé. Alors là je crois qu'on est dans du théâtre d'objets pour évoquer les thèmes de l'identité et de la différence. Et les auteurs de cette démarche originale se sont inspirés de mots d'enfants sur ce thème-là, sur la différence, pour créer ce spectacle qu'on peut aller voir donc dans la région, et plus exactement les mardis 28 et 29 avril au théâtre Le Sémaphore à Port-de-Bouc. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, Denis Fayola. Alors, Denis Fayola, avec Elsa Bichuchet, vous animez la compagnie clandestine créée en 1995, une compagnie qui s'attache donc depuis sa création à créer des spectacles tout public en abordant des thèmes, vous dites, éternels et contemporains comme la pauvreté, les luttes sociales, le travail, l'aliénation. Et ce qui a retenu mon attention, c'est déjà ces thèmes-là, donc pour tout public et notamment en direction de la jeunesse, et plus particulièrement à travers un spectacle qui s'intitule « C'est pas pareil » et qui, lui, aborde les thèmes de l'identité et de la différence. Et a fortiori, ce qui attise encore ma curiosité, c'est du théâtre d'objets avec plus particulièrement des papiers découpés. Alors Denis Fayola, j'aurais aimé que vous nous racontiez un petit peu comment s'est créé ce spectacle.
Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question.
Oui.
D'abord, je fais une petite rectification. Ça n'est pas Elsa, mais Esther.
Pardon, excusez-moi.
Qui est à l'origine de la compagnie avec moi. Effectivement, on a toujours travaillé, nous, sur des thèmes qui sont en prise directe avec la société. Et même si on s'adresse parfois à du très, très jeune public, c'est quelque chose qui nous passionne. Et là, sur le dernier spectacle, c'est pas pareil, effectivement. On parle d'identité, on parle de la vie de l'individu dans la société, des rapports entre l'individu et la société, donc de comment ça se passe, voilà. C'est ça. Alors pourquoi après on a utilisé le papier? C'est parce que c'est un matériau qu'on utilise depuis toujours, je dirais, sur lequel la compagnie aime travailler, avec lequel elle aime travailler. Le papier découpé, bah, ma foi, le précédent, un des précédents spectacles qui s'appelait Multipli, était un bal d'origami, c'est-à-dire qu'on utilisait des personnages qui étaient faits en origami, avec des techniques effectivement de marionnettes et de théâtre d'objets, hein. Je veux dire, on est quand même dans ce monde-là.
Oui.
Et là, c'est du papier découpé cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est la technique qu'on appelle souvent le pop-up, qu'on connaît bien dans
oui,
les livres pour enfants, hein.
Exact.
Ou kirigami en japonais, si on veut avoir l'air un peu plus savant, mais c'est la même chose. Et puis tout ce qui est à base de mécanismes de papier. Ça, c'est des choses qu'on aime bien faire aussi, qu'on avait fait sur Multipli, qu'on fait là. C'est-à-dire des apparitions, des disparitions, des petites surprises comme ça, ce qu'on appelle les petites magies, quoi, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de nous d'être un support et de faire passer des petites interrogations comme ça auprès des tout jeunes spectateurs. Voilà. Après, il y a autre chose sur ce spectacle-là, sur C'est pas pareil, et ce sera la même chose sur le prochain, c'est qu'on a travaillé... pendant la production du spectacle, pendant la création du spectacle, avec des maternelles.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est allé dans des classes maternelles, on était en résidence au Théâtre Durance à ce moment-là, à Château-Arnoux, et on a travaillé comme ça sur le territoire, qui est aussi notre territoire puisqu'on est aussi des Alpes de Haute-Provence.
Oui.
On a travaillé dans des classes maternelles, c'est-à-dire qu'on a posé ce thème de l'identité, ce thème de l'autre, ce thème de la différence, et on a vu les réponses qui nous étaient données. Alors ça passait beaucoup par des choses graphiques, hein, par des dessins, de portraits, d'autoportraits, de regards sur l'autre, et de toutes choses qui ont été ensuite réutilisées dans le spectacle. C'était clairement posé comme ça au départ. C'est-à-dire qu'il y avait une collaboration avec une école, ou des écoles, qui avaient, elles, comme thème de l'année, comme thème de travail aussi, l'autre, la rencontre avec l'autre. Et nous, bon, notre spectacle parlait de ça aussi, donc il y a une rencontre qui s'est faite à ce moment-là. Et puis, c'était clairement posé que ça aboutissait pour nous à un travail de création.
Oui, voilà. Donc les enfants ont activement participé à fournir la matière, la réflexion autour de ce thème, puisque eux-mêmes sont dès le plus jeune âge confrontés à l'expérience de la différence. Et je trouve cette démarche très originale. Et qu'est-ce que vous avez retenu et mis en valeur à partir de ces témoignages d'enfants, de tout au moins ce qu'ils vous ont dit et transmis?
Alors, il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans le spectacle.
Oui.
Au niveau graphique, mais aussi au niveau de ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous, on a repris, que la comédienne dit, ou du moins qui sont exprimées dans le spectacle, des choses qui existent aussi sur la bande-son, parce qu'on a fait beaucoup d'interviews en amont. Et ensuite, on a pu vérifier dans le travail comment des idées que nous on lançait étaient reprises par eux.
Oui.
Comment des façons de dire les choses pouvaient être comprises ou pas comprises. Donc on a pu, à ce moment-là, rectifier le tir parfois, ou exprimer les choses différemment, de manière à ce que ça puisse être compris, du moins que ça pose des interrogations à des enfants qui avaient entre 3 et 6 ans, puisque c'est l'âge de ce spectacle-là.
D'accord. Et mais du coup, moi, la question que je me posais, je ne sais pas si oralement on peut réellement y répondre, c'est comment traduire des idées, des concepts, des choses abstraites qui en même temps sont aussi du vécu émotionnel en papier. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des images visuelles du spectacle pour nous donner encore plus envie de venir le voir ?
Nous sommes à la radio.
Et oui, c'est toute la magie de la radio, tout l'intérêt de la radio, mais c'est aussi une grande difficulté.
Non, tout l'intérêt de venir voir, parce qu'effectivement, là, j'ai du mal à vous exprimer des images visuelles du spectacle. C'est vrai que nous, bon, le papier, c'est un matériau qu'on utilise depuis très longtemps, qu'on adore. On peut appeler ça du théâtre de papier, si on veut, même si c'est une forme un petit peu particulière, mais enfin, c'est ça. Je ne sais pas quelles images vous donner pour venir voir le spectacle. Ouais.
Qui est sur scène?
Esther Bichuchère.
C'est Esther Bichuchère. Je vous remercie beaucoup, Denis Fayolin. Donc, je rappelle le spectacle C'est pas pareil par la compagnie Clandestine le mardi 28 et le mercredi 29 avril, des séances à 10h et 14h pour tout public, donc à partir de 3 ans. Pardon ?
Je crois bien que c'est 15h.
Ah, pardon.
Mais je crois bien.
Donc, c'est au théâtre Le Sémaphore à Port-de-Bouc. Je donne de toute façon un numéro de téléphone pour se renseigner auprès du théâtre, le 04 42 06 39 09. Et je crois aussi que vous intervenez dans des séances scolaires, puisque vous l'avez déjà évoqué. Et j'ai repéré aussi une séance scolaire. Ça me donne l'occasion d'évoquer la fête du livre jeunesse du 13 au 19 mai à Manosque, qui a pour titre Traits, portraits et autres histoires, une manifestation annuelle organisée par l'association Éclat de Lire à Manosque. Très bien, Denis Fayolin, merci beaucoup et bonne continuation.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Un caillou sur la chaussure. Un caillou dans la chaussure.
Alors, on voulait évoquer aussi un autre rendez-vous qui s'installe à Marseille depuis maintenant 3 ans, au mois de mai. Avril-mai. Les 16 et 17 mai, Passion d'image, c'est donc le nom de cet événement, accueillera à l'Alcazar des expositions autour du graphisme et de l'illustration et aura pour invité d'honneur une grande dame, Madame Gweta Pakowska, sur le thème image de l'être, donc pour notamment évoquer l'abécédaire qu'a réalisé Gweta Pakowska, artiste tchèque connue et reconnue internationalement, et puis d'autres abécédaires, notamment, alors je vais juste citer peut-être les éditions de Les Dunes, je ne sais pas si tu as remarqué cette maison d'édition, c'est un très beau travail mené par Régis Lejon, éditeur chez Les Dunes, qui a accompagné et réalisé certains de ses imagiers et inviter d'autres illustrateurs et artistes à réaliser d'autres lettres. Parce que bien sûr, il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc ces rencontres vont tourner autour de ces 26 graphies différentes. Il y aura aussi donc des expositions autour des pop-up, des abécédaires et de Gweta Pakowska. C'est surtout d'elle dont je voulais un petit peu parler, parce que bon, moi je la connais bien, toi aussi Marie-Dominique, je pense que trop peu de gens connaissent son travail encore, alors qu'on peut trouver ses ouvrages à l'Alcazar. C'est vrai que ce sont des ouvrages qui peuvent un petit peu étonner,
qui peuvent déranger
parce qu'ils n'ont pas de texte souvent, enfin en tout cas quand ils en ont, on rentre vraiment comme dans un petit théâtre d'images. D'ailleurs, elle a travaillé sur ce thème-là, le théâtre de minuit, c'est un de ses ouvrages, où images, couleurs, personnages, dialogues entre eux, il y a comme une musique dans ses livres. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez flagrant, puisqu'il y a un rythme travaillé dans la composition, la mise en page et puis l'enchaînement des couleurs. Et c'est une artiste qui à la base est plasticienne, mais qui très vite a pu s'exprimer aussi, puisqu'elle vient de Tchécoslovaquie, grâce au livre jeunesse dans lequel elle avait plus de liberté d'expression.
Oui, parce que très probablement, c'est venu aussi à une époque où justement, le livre-objet, on y revient, on en a parlé depuis le début de l'émission, s'est développé, s'est installé dans l'univers du livre jeunesse. Des livres à toucher, à sentir, à manipuler, en même temps que visuellement, il y a des propositions inventives et qui interrogent et qui très dynamique, quoi. Et quand tu disais tout à l'heure que ce sont des livres qui peuvent peut-être rebuter, entre guillemets, mais c'est pas tant rebuter, c'est juste que moi, ce que ça évoque surtout, c'est la fragilité. Ce sont des livres aussi à manipulation délicate.
Oui, alors surtout, je voulais pas insister sur le fait qu'on puisse trouver ces livres intéressants, parce qu'au contraire, ils sont d'une grande richesse, et je trouve que tout le monde devrait en avoir un chez soi. D'ailleurs, c'était un des encore une réussite du Conseil général du Val-de-Marne, hein, qui a à nouveau choisi un grand artiste, donc Veta Pakovska, en 2005, pour créer un livre offert à tous les enfants du département. Hein, c'est un rituel, hein, depuis quelques années. Paul Cox s'est aussi prêté au jeu, enfin l'aventure merveilleuse. Et donc ce livre qui est né en 2005 aux éditions du Seuil avec l'aide du département du Val-de-Marne, si je me trompe pas.
C'est ça.
Merci. C'est un livre pour toi, d'ailleurs, qui sera exposé à l'Alcazar à cette occasion. Un livre pour toi, c'est un livre que j'ai montré à beaucoup de personnes dans le cadre d'ateliers, de stages, adultes et enfants, et qui a inspiré pas mal d'ateliers aussi de création collective et surtout de création abstraite, où je trouve la grande force de ces ouvrages, l'abstraction, le jeu sur la couleur, la matière, est accessible à tous et puis peut créer et laisse le public, le spectateur, le visiteur dans le livre interpréter à sa façon. Et c'est vrai que les jeux, comme l'objet, effectivement, c'est carrément ça. Le fait que ce livre qui se déplie sur 12 mètres de long, un livre pour toi, puisse devenir une maison, il y a quelques fenêtres, des trous qui permettent de circuler, des allers-retours, et puis une dynamique avec des chiffres, avec des personnages, des thèmes récurrents, mais en même temps pas d'histoire, une histoire à inventer, à imaginer. Voilà, donc des livres absolument à découvrir. Et si vous voulez rencontrer en personne Veta Pakovska, c'est le 15 mai à l'Alcazar, de 10h à 16h15. Et puis, il y a une rencontre dédicace ensuite à la baleine qui divague à 17h30, ce même jour.
Un caillou dans la chaussure.
Pour terminer l'émission, Nathalie, une sortie nature, c'est le printemps.
Oui, les petits oiseaux chantent, vous avez remarqué. Les fleurs aussi s'épanouissent, quel bonheur. Et on a tout près de nous une belle nature, justement. Donc, j'ai trouvé ce dépliant du Festival de la Camargue qui a lieu du 1er au 6 mai et qui vous permet de partir dans la nature, en Camargue, justement, pour, par exemple, écouter les oiseaux ou faire une balade au crépuscule. Donc, je trouve que c'est une très belle proposition, très variée, donc je vous laisse consulter le programme. Et si vous ne trouvez pas ce programme papier, vous pouvez aller sur le site www.festival-camargue.fr.
Un caillou dans la chaussure.
Non, 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 non.
Un caillou dans la chaussure, c'est terminé. On se retrouve le mercredi 27 mai à 11h sur Radio Grenouille. Merci à Sébastien Gély pour les acrobaties techniques. Merci à Nathalie Guimard pour les pépites cinématographiques. À bientôt.
Merci Marie-Dominique.